Quiproquo élémentaire. Faubourg de Londres, été 1891. Enfin un peu d'air frais. L'été londonien était méconnaissable. Supplantant le brouhaha constant d'une métropole de plus en plus industrialisée, des rumeurs rogomeuses enflaient. On accusait les usines, les machines à vapeur et leurs fumées noires, âcres et poisseuses, de gâcher le climat, comme elles avaient épaissi le fog en smog. Toute cette activité calorifère des fournaises à charbon réchauffait le climat. Le noir des fumées attirait sur la plus grande capitale du monde les foudres d'un soleil qui n'aurait dû griller que les colonies. Tout juillet durant, les honnêtes londoniens avaient subi un vrai temps pourri de Côte d'Azur, avec les purées de pois en plus. Il n'avait quasiment pas plu du tout, ou presque. Londres se desséchait. Les plus âgés comme les plus avisés craignaient déjà les spectres nauséabonds de la grande canicule puante et meurtrière de 1858. Les poumons anglo-saxons ne sauraient y résister. Pour la première fois de cette saison blanche et sèche, la soirée se festonnait de quelques nuages familiers, réconfortants. Ils rafraîchissaient les nues du St. George Cottage, à deux pas de Baker Street, surchauffées comme un four. Le plomb des nuages écrasait l'expiration tiède qui se faufilait par les vitres du bow window. Elle donnait sur le jardin, soigné et fleuri. Les parfums des roses variées s'insinuaient jusqu'aux deux dîneurs lents. Assis à sa table, le coude gauche écrasant une édition du soir d'un quotidien très sérieux, le quinquagénaire préoccupé égrena quelques amandes, certaines amères, dans son fromage de chèvre frais acidulé. Il marmonna quelque chose, pour lui-même. Son regard se perdit sur les iris mauves et jaunes qui ondulaient, odorant, sur la dentelle serrée du gazon rasé de près. À son côté droit, la toute jeune fille grignotait des criquets, grillés au thym et à l'origan. Craquant sous la dent, il décolonisait ses tagliatelles de courgettes sautées à l'échalote et floconnées de Stilton sec. Fine et pâle, elle couronnait son visage impassible d'une improbable coiffure en choucroute châtain, bouclée en mousse. Cette crinière, domptée, dégageait un large et long front à peine bombé. Lui-même dominé, impérial, deux arcs bruns de sourcils fins mais sérieux. Ses yeux noirs pétillaient d'une intelligence assez aiguisée pour se faire discrète. Le visage s'allongeait jusqu'à un menton rondement mené. Il trahissait un caractère bien trempé, habilement dissimulé par une bouche longue, au sourire facile, au silence avisé. Presque aussi mûr que la poire ivoire dans une soucoupe de faïence chinoise bleue, George Feather jeta un coup d'œil à la tenue d'intérieur très cavalière de sa fille. Mais le sémillant quinquagénaire n'en dit rien. Lui-même n'avait pas daigné boutonner les deux dernières nacres de sa chemise en coton, blanche à large col. Il s'affichait sans lavalière ni papillon. Il versa l'India Pale Ale herbeuse dans son grand verre de cristal, tandis que sa fille se resservait un peu de thé vert au litchi et aux boutons de rose. Un nuage de gazon humide, de bière et de fleurs exotiques plana sur la nappe blanche. Quelque part, dehors, les rossignols chantaient. Haussant un sourcil, l'élégant au favori jardinier au cordeau grommela. « Stanzi, avez-vous récemment croisé ce sympathique furoncle moustachu de Watson ?»«
De quoi, Dad ?»
Agacé de devoir répéter cette question urticante déjà tournée 10 fois dans sa tête avant de l'articuler, le birbe biberonna une gorgée de son amer IPA Et je vous demande, ma chère de ma chère, si vous avez récemment croisé ce sympathique le furoncle moustachu de Watson.
Pourquoi furoncle ?
Il est bien moustachu, non ? Avec un monocle, non ? Et puis, sympathique, non ? Paraît-il. Son intonation s'était gâtée sur les derniers mots, plus acide qu'amère. Et rien prétentieux, non ? À s'écouter parler, non ?
Oui, récemment, à la boutique de thé, celle de la mère Mitchell.
Ah vraiment ? Watson ?
Oui, vous savez, celle qui a perdu son chat.
Il venait chercher le chat ? Avec son talent de Sherlock ?
Non, il venait s'acheter des cigares. Et on en avait besoin pour ses expériences.
Il autopsie des cendres pour une monographie.
Non, celles de Holmes sont définitives. Vous le savez bien, père. Watson recherche actuellement un antidote contre le venin de la fausse mygale. Il prépare une monographie sur le sujet.
Par Jupiter. Mais où a-t-il trouvé une fausse mygale à Londres ?
Il va au zoo, je crois. C'est ça, au vivarium.
Quelle idée ! Aussi sotte que grenue.
Oui. Incongru, vraiment. Avec mère, nous en avons trouvé une, vivante, dans notre jardin. Ce n'est pas normal sous nos latitudes. Sans doute un effet du réchauffement chaudement dénoncé par nos esprits les plus verts.
Ou une passagère clandestine échappée des caisses de fruits exotiques qui gonflent les cales des navires de l'Empire et s'éparpillent sur nos wharfs salés. Je ne cesse de découvrir dans nos gazons des araignées aux jambes excentriques, aux crochets démesurés et aux robes colorées. Comme s'il ne l'avait pas coupé, Stanzi continua sa précédente tirade.
Les 8 autres étaient mortes. Nous avons appelé Merlin pour la chasser. Mais après l'avoir longuement regardé, il nous a toisé et s'est assis en lui tournant le dos comme si nous l'avions vexé.
Ah, vraiment. Il faut dire aussi, on n'invoque pas un enchanteur pour chasser une mygale, Stanzi, fût-elle fausse.
Merlin, c'est mon chat, père. Noir. Il chasse tout, même les mouches, la nuit. Surtout sur mes édredons quand je dors. Et là, il cherche la petite bête et se vexe.
Et c'était lui qui avait tué les 8 autres ?
Non, elles étaient dans une des cabanes à oiseaux de l'arbre de Judée.
Comme quoi, j'ai bien raison, pontifia le dandy lent à la laine fleurie de houblon.
De quoi ?
Je n'ai jamais eu aucune confiance dans les oiseaux.
Pourquoi donc, Daddy ?
Ils ont un drôle de langage. Ils sont bien trop agréables à écouter pour être totalement honnêtes ou désintéressés.
Votre amie Lady S, elle aussi est très agréable à écouter, non, Daddy ? Vous passez beaucoup de temps dans son jardin d'hiver, en plein été aussi, d'ailleurs.
Contre toute attente, alors que sa progéniture aiguisée croquait un autre orthoptère grillé, George Fezzer ne prit pas la mouche. Ne soyez pas insolente, Stanzi, s'il vous plaît. Mais il passa à autre chose. Demain, je vais aller jeter un œil dans cette chapellerie-là. Top of the top hats. Vous savez, Stanzi, celle tenue par cet anchois sec, tranchant et antipathique au vert toujours noir. Son acolyte s'entend à être étonnamment silencieux pour un Irlandais. Ils sont réputés pour leur haut de forme à un tatinet excessif. De longs chapeaux, vraiment. Voudriez-vous m'y accompagner ?
Oh non, merci. J'y suis déjà allé.
Ah bon ? Je ne savais pas qu'ils vendaient aussi des chapeaux pour dames.
Ils n'en vendent pas.
Et ils ne se sont pas étonnés qu'une si jeune fille seule les visite.
Je n'étais point vêtue en jeune fille, Daddy.
Ah. Puis, faisant comme s'il n'avait pas remarqué le lent silence qui avait redonné un peu de voix au rossignol, George Fezzer demanda à sa fille. Et vous les avez trouvées comment ?
Succulentes, vraiment. Ces tagliatelles de courgettes, succulentes, Daddy. Vous les avez bien réussi.
Mais non, Stanzi, pas elles, eux.
Les criquets ? Très parfumés et grillés à croquer.
Non, pas eux non plus. Les chapeliers, comment les avez-vous trouvés ?
Grâce à la carte de la boutique qui était sur votre bureau.
Comme si elle venait juste de discerner sa confusion, Stanzi reprit.
Oh, les chapeliers, vous voulez dire ? Celui au vert noir et l'autre toujours en silence. Un peu fou, non ?
Quiproquo élémentaire. Un conte dans l'univers de la Société des vieilles têtes à long chapeau. Écrit par Georges Fauveau narrée et mise en son par Vincent Corlet, avec Constance Fauveau dans le rôle de Stanzi, sur une musique de Kevin MacLeod. Une production signée Georges Fauveau et Vincent Corlet pour la Société des Vieilles Têtes, Allons Chapeau.